Salut Cafard.
Salut Cancrela.
Qu'est-ce que tu fais sur CFM?
Je blablate de vieux bouquins. Et toi?
Ah bah c'est rigolo, moi je blablate de livres jeunesse.
On a qu'à faire une émission ensemble.
Les blablates, c'est une fois
par mois,
le mercredi à
19h
et le samedi à
13h
sur CFM
107.9. Salut.
Salut.
Vous écoutez les blablates sur CFM 107.9. Bah, vous avez entendu, hein, Cancrela n'est toujours pas revenu. On a entendu la voix rauque et suave de Monsieur Mythe. Donc, Monsieur Mythe qui continue à m'assister, puisque Cancrela est toujours coincé sous une tonne de bouquins.
Ah ouais, ça, les bibliothèques, hein, c'est pas facile à dégager.
C'est ça, surtout les bibliothèques Ikea, tu vois, ça se casse la gueule facilement, quoi.
Il y a des auteurs qui sont morts sous leur bibliothèque, écroulés.
C'est ça.
Je sais plus le nom, parce que là, j'improvise complètement, mais... Il y avait un philosophe qui avait sa bibliothèque au-dessus de son lit et la bibliothèque s'est écroulée et il est mort sous la,
sous
le poids. La loue, je sais pas, c'est pas pire que de mourir d'une indigestion de pâté en croûte ou un truc comme ça.
Ah non, mais c'est, non, moi je trouve que le pire c'est mourir, genre, tu sais, en t'étouffant avec un morceau de viande.
Ouais,
ça,
ouais,
c'est
voilà,
vraiment
ouais.
Le truc de merde.
Ah, ça dépend.
Bref.
C'est pas le sujet de l'émission, ouais. Vous inquiétez pas. Encore que.
On va, voilà. Donc bon, on est toujours en train d'essayer de sortir Cancrela des décombres, mais on ne s'en sort pas encore. On accueille Monsieur Mythe, donc, qui va nous parler de...
Eh ben, la dernière fois, je vous avais parlé sexualité dans la littérature jeunesse, donc il faut que j'essaie de mettre la barre encore un peu plus haut. Donc cette fois-ci, je vais vous parler de torture porn dans la littérature jeunesse, toujours, bien sûr.
Ouais, mais attends, parce que si tu fais une troisième émission, tu vas nous parler de quoi?
Ah, ça, je ne sais pas, vous saurez, écoutez. Hein.
C'est horrible. Tu vas nous parler des 11 000 verges d'Apollinaire après, c'est ça?
Pas de spoil. Cafard, toi, tu vas nous parler de quoi?
Alors, moi, je vais vous parler d'une histoire qui se passe sur une île et qui a été écrite par un philosophe des Lumières.
Et c'est pas Robinson Crusoe.
Et c'est pas Robinson Crusoe. Donc maintenant, on va vous laisser quelques minutes pour réfléchir, justement, et chercher dans vos petites cervelles ou alors sur Google de quoi on va parler. À tout de suite.
Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
Day is a day, oh. A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and we want go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and we want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and we want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Day, oh.
Daylight come and me want go home.
Day, is a day, is a day, is a day.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Day-o, day-o,
daylight come and me want go
home. Day, day-o,
daylight come and me want go home.
c'était Banana Song de Harry Belafonte.
Est-ce que ça aurait pas un rapport avec ce que tu vas de nous parler incessamment sous peu?
Comme t'es trop fort.
Ouais.
Ouais, il y a un petit rapport.
Je pensais aux îles, le Calypso, tout ça.
C'est ça. Les îles, le Calypso, les esclaves.
Les chansons d'esclaves.
Donc là, quand même, on se réchauffe grave. Hein. Mm-hmm. Une île, des esclaves, un philosophe des Lumières. Vas-y, monsieur Mythe, de quoi je vais parler?
L'île des esclaves?
Ouais, c'est ça! L'île des esclaves de Marivaux, écrit en 1725. Bon, ben, c'est une des pièces les plus célèbres de Marivaux. Marivaux, tout le monde le connaît, bien sûr. Hein.
Bien sûr.
Philosophe des Lumières, 18e siècle. Donc, l'époque de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau, de Diderot et toute la clique. Donc, Marivaux, il était journaliste, romancier, dramaturge. Et ses œuvres les plus connues, ce sont...
L'île des esclaves.
L'île des esclaves, bien sûr. Le jeu de l'amour et du hasard, qui est une pièce de théâtre. Le triomphe de l'amour, qui est aussi une pièce de théâtre. Et La vie de Marianne, qui est un roman. Voilà, donc en fait, la plupart de ses œuvres, en fait, parlent de l'amour, du jeu de la séduction, etc. Mais bon, moi, je trouve que c'est pas ses œuvres les plus intéressantes. Et par contre, L'île des esclaves, je trouve que ce bouquin, il est vraiment super. Et du coup, j'ai décidé de travailler là-dessus. Enfin, de travailler.
Oui, oui, oui.
Non, c'est toujours un plaisir de faire les blablates, c'est pas du travail. J'ai décidé de m'éclater là-dessus, à vous le présenter.
Ouais.
Voilà. L'île des esclaves, donc, c'est le premier vrai succès de Marivaux. Puisque dès sa parution en 1725, la pièce a été jouée plus de 20 fois, dès la première année. Et c'est une pièce qui a été vraiment beaucoup jouée au XVIIIe siècle. Au XIXe, non, plus vraiment. On l'a un peu type oublié. Et puis au XXe siècle, c'est revenu à partir des années 30. Mmh. Et jusqu'à maintenant, elle est assez souvent jouée. Et c'est elle fait partie de ces quelques pièces de Marivaux assez engagées, quoi. Parce que comme je disais tout à l'heure, les autres, c'est plus genre l'amour, le badinage, ce genre de conneries. Quoi.
Et s'il n'y a pas d'amour?
Il y a une parodie d'amour, en fait, c'est tout. Mais il n'y a pas vraiment d'amour, non. L'île des esclaves, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe dans l'île des esclaves? Un petit résumé du début, en tout cas, pour pas vous spoiler la fin, hein, parce que c'est super trépidant. Deux Athéniens, victimes d'un naufrage, donc Iphicrate et Euphrosyne, échouent sur une île où règnent depuis 100 ans des esclaves qui se sont jadis révoltés contre leur maître. Trivelin, qui gouverne cette petite république, exige que les nouveaux arrivants prennent le nom, les vêtements et le rôle de leurs esclaves, Arlequin et Cléantis. Donc, en gros, les maîtres deviennent serviteurs et les serviteurs deviennent les maîtres. Mmh. Un renversement de situation super intéressant parce que du coup, ça donne... toute une réflexion sur la condition sociale, enfin sur plein de choses, et aussi donc toute une réflexion bien sûr sur le rapport dominant-dominé, sur le rapport à l'esclavage, etc. Après on dit l'île des esclaves de Marivaux, donc bien sûr c'est une dénonciation de l'esclavage puisqu'à l'époque l'esclavage n'était pas aboli, mais c'est plus une dénonciation du peu de considération qu'on avait pour les domestiques à l'époque en fait. C'est plus le propos de Marivaux, plus que la traite des Noirs, etc. Alors, une petite pièce, hein, c'est vraiment une pièce très courte, ça fait pas plus de 40 pages. Il n'y a pas d'acte, c'est 11 scènes, et il y a 5 personnages. Donc, c'est pas très compliqué comme pièce. Hein. On a Trivelin, dont j'ai parlé, qui est le chef de l'île, qui gouverne l'île, le réfé, quoi, et qui impose un peu sa loi donc pour ce système de renversement de situation. Mais on le voit au début, puis on le voit à la fin, et après tout le reste du temps, c'est juste les autres personnages qui font leur truc, quoi. On a Iphicrate, donc, qui est un homme, et son valet Arlequin, et Euphrosyne, qui est une femme, et sa... on dit pas valette.
Domestique, sa servante.
Voilà. Valette, c'est mignon aussi. Mmh. Et sa domestique, donc, qui est une femme Cléantis. Mmh. Du coup, Iphicrate prend le rôle d'Arlequin, Arlequin prend le rôle d'Iphicrate, Euphrosyne prend le rôle de Cléantis, Cléantis prend le rôle d'Euphrosyne.
D'accord.
Et donc, ça nous donne plusieurs scènes assez comiques, parce que ça reste quand même une pièce plutôt comique, qui dénonce donc une question sociale de l'époque, qui est toujours d'actualité malheureusement dans beaucoup de pays, et puis d'une manière générale, sans parler d'esclavage, le rapport,
c'est une question de statut social aussi.
Voilà, c'est ça, exactement. Alors, je vais juste vous lire un petit extrait de la scène 2, où justement, Trivelin, le chef de l'île, nous explique un petit peu qu'est-ce qui se passe sur cette île. Comme je l'ai dit dans le résumé, c'est une île où il y a une centaine d'années, les esclaves se sont révoltés, ont pris le pouvoir. Et en fait, au début, les esclaves, ils étaient en mode genre revenge, tu vois, vendetta. Et du coup, ils butaient tous les maîtres. Après, ils se sont dit, bon, quand même, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Donc, ils ont décidé de leur faire prendre leur rôle d'esclave pour qu'ils se rendent compte, en fait, à quel point c'est cruel, humiliant, etc. Et inhumain. Du coup, Trivelin explique ceci, que donc juste avant qu'ils tuaient avant les maîtres, mais que maintenant ils ne le font plus et qu'ils procèdent autrement. Nous ne nous vengeons plus de vous, nous vous corrigeons. Ce n'est plus votre vie que nous poursuivons, c'est la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire. Nous vous jetons dans l'esclavage pour vous rendre sensibles aux maux qu'on y éprouve. Nous vous humilions afin que, nous trouvant superbe, vous vous reprochiez de l'avoir été. Votre esclavage, ou plutôt votre cours d'humanité, dure 3 ans, au bout desquels on vous renvoie si vos maîtres sont contents de vos progrès. Et si vous ne devenez pas meilleur, nous vous retenons par charité pour les nouveaux malheureux que vous iriez faire ailleurs. Et par bonté pour vous, nous vous marions avec une de nos concitoyennes. Ce sont là nos lois, à cet égard, mettez à profit leur rigueur salutaire. Remerciez le sort qui vous conduit ici. Il vous remet entre nos mains dures, injustes et superbes. Vous voilà en mauvais état. Nous entreprenons de vous guérir. Vous êtes moins nos esclaves que nos malades, et nous ne prenons que 3 ans pour vous rendre sains, c'est-à-dire humains, raisonnables et généreux pour toute votre vie. Voilà, vaste programme. Hein.
Mmh. C'est un camp de rééducation.
C'est ça, reprogrammation du cerveau en 3 ans, quoi. Tu l'as lu,
ouais.
Monsieur Mita ?
Il y a très longtemps, quand j'étais au lycée des mythes.
Ouais, au lycée des mythes.
Ouais.
Il y avait des cafards et des cancres là,
oui,
ou pas ?
Oui, il y en a plein. Ouais,
il y en avait.
Ouais.
Tu avais aimé ou pas ?
Ouais. Bah, je l'avais lu pour moi, en fait. C'était une période où je commençais à m'intéresser à la politique aussi. J'avais bien aimé les philosophes des Lumières, Voltaire et compagnie. Et donc, j'avais pioché un peu plus là-dessus. Et ça me semblait assez subversif comme pièce de théâtre. Donc, je l'avais lu pour moi. C'est vrai qu'elle est, elle est courte, donc c'est facile, oui, de rentrer dedans. Ouais.
C'est ça. Ça se lit tout seul. Franchement, il y a, voilà, un jour qu'on s'embête au coin du feu, là, on lit ça en 2 heures et c'est réglé, quoi.
Ouais, ouais.
Donc, comme vous l'avez entendu, hein, c'est un cours d'humanité, en fait. C'est comme ça que c'est présenté. Un cours d'humanité. Donc, le premier intérêt de ce livre, c'est bien sûr la question sociale. Puisqu'on met en place un nouveau contrat social, et il y a un effet du coup de miroir offert au maître qui voit du coup comment il traite leurs serviteurs. Et en plus de cela, au cours des autres scènes, on demande aux anciens esclaves, donc à Cléantis et à Harlequin, de faire le portrait de leur ancien maître. Et donc ils font des portraits un petit peu satiriques, subversifs, etc., en forçant le trait sur leurs caractéristiques ridicules. Donc sur la coquetterie, sur la vanité, sur la cruauté, etc. Mais en réalité, en fait, cette pièce, ça va au-delà de la question politique ou sociale, et c'est carrément plus une épreuve morale et sentimentale, parce que c'est le but, c'est pas de réfléchir sur... Bien sûr, ça y est, c'est sous-jacent, la question sociale, mais c'est surtout de voir l'égalité entre êtres humains... l'égalité naturelle, en fait, tout simplement. Au-delà de la condition sociale, et etc. L'égalité en termes de caractère, de psychologie, de l'humanité, tout simplement, quoi. Donc voilà, donc ça c'est vrai, quand même, c'est une question très intéressante dans ce bouquin. Ben, tout tourne autour de ça, hein, principalement. Et puis c'est intéressant aussi parce que, du coup, comme on a 4 personnages, ben 5 avec Trivelin, mais bon, comme je l'ai dit, Trivelin, il est au début à la fin. Comme on a 4 personnages, on a aussi 4 réactions différentes. Et ça, c'est quand même super intéressant parce que selon que l'on est maître ou esclave ou femme ou homme aussi, du coup, les réactions vont être différentes. Autre point intéressant de cette pièce, c'est le comique, tout simplement. Parce que ça reste une pièce drôle. Bon, vous l'avez entendu, Harlequin, tout le monde connaît Harlequin.
C'est Harlequin, oui, c'est un stéréotype du théâtre.
C'est Harlequin, c'est... C'est le champion de l'amour, hein. Non. Harlequin, donc, c'est un des personnages de la Commedia dell'arte, et Trivelin aussi. Et donc, Harlequin, c'est vraiment ce personnage comique, un peu de bouffon, qui en fait toujours 3 tonnes, etc. Et donc là, il est un peu dans cette idée-là aussi, quand même, cet Harlequin. Hein. Il y a des histoires de coups de bâton, ça fait un peu guignol, quoi. Des jeux de mots, bien sûr. tout ce qui est déguisement aussi, puisque du coup, on transfère les rôles, donc il y a aussi cette dimension-là du déguisement, donc du théâtre dans le théâtre, etc. Et c'est vraiment super intéressant de voir justement comment c'est traité. Franchement, Marivaux, il est trop fort, quoi. Enfin, de toute façon, tous les Offices of the Lumière, ils sont trop forts. Petite exception faite à Rousseau, mais ça, on en parlera une autre fois.
T'aimes pas Rousseau, toi ?
Non, il me saoule, Rousseau. Il saoule beaucoup de monde, Rousseau. Mmh. Mais en tout cas, voilà, c'est une pièce quand même assez drôle. Et puis, rien que les prénoms. Enfin, moi, je suis toujours en train de triper sur les prénoms de tout le monde, de tous les personnages dans la littérature, mais c'est trop drôle, quoi. Mmh. Euphrosyne, Iphicrate.
C'est des prénoms grecs ?
C'est ça, parce que Euphrosyne, Iphicrate, ce sont censés être des Athéniens. Donc, c'est ça, c'est grec. Mmh. Et donc, Euphrosyne, c'est le nom d'une des muses, en fait. La muse de la joie. C'est la joie. Et Iphicrate, c'est celui qui gouverne par la parole, ou je sais plus.
Je connais Hippocrate, mais Iphicrate, non.
Donc, Iphicrate, Euphrosyne, Arlequin, Cléantis, plein de situations rocambolesques, comiques. Et on en revient, en fait, au premier but énoncé de la comédie par tous les théoriciens de la comédie, qui est Monsieur Mitte.
Pardon.
C'est quoi le but de la comédie?
Faire rire. C'est pas éduquer, enfin distraire, éduquer, informer. En tout cas. Enfin,
comme tu le dis, ça fait très slogan du ministère de l'éducation.
Bah c'est la mission de la télévision publique normalement. C'est pour ça que ça m'est revenu.
D'accord. Mais... non, c'est oui, c'est éduquer par le rire, quoi.
Ah, c'est le. Bien, c'est bien. Ouais, c'est...
Castigat ridendo mores en latin. Châtier les mœurs par le rire.
Oh.
Ouais, on châtie, tu vois. Dans la comédie, on châtie, quoi. Mmh. On est Arlequin avec son bâton et on tape tout le monde. Bref, du coup, là, on est vraiment dans ça, dans le castigat ridendo mores, quoi. J'adore dire des trucs en latin, ça m'éclate.
Ça pète toujours, ouais.
Donc, châtier les mœurs par le rire. En gros, le but, enfin, les buts, parce qu'il y en a plusieurs de cette pièce, c'est la prise de conscience des maîtres. Ils prennent conscience, donc, de leur inhumanité, de leur cruauté. Mais aussi, et ça, c'est super intéressant, je trouve, le pardon des esclaves. Mmh. C'est-à-dire que les serviteurs, les domestiques, ceux qui ont, toutes les personnes qui ont été flouées, apprennent à pardonner. Mmh. Et ça, je trouve ça génial, d'associer les deux, quoi. De montrer que c'est pas que dans un sens, même si les autres sont victimes, ils ont aussi un travail à faire d'acceptation, quoi.
Bah, si tu veux pacifier une société après des conflits, il faut toujours une période d'amnistie, de pardon.
C'est ça.
Sinon, c'est la loi du talion, quoi.
Exactement.
Est-ce que, si je peux me poser une question, est-ce qu'à l'époque, cette pièce a été jugée tendancieuse? Il y a des pièces ou des contes philosophiques qui ont été censurés. Est-ce que celle-ci, elle est bien passée auprès du pouvoir ou ils y ont vu vraiment qu'un truc, qu'une comédie
Non, elle est bien passée parce que justement, comme il l'avait transposé dans un autre univers...
Il n'y a pas de ça chez nous.
C'est ça. L'Athènes antique, une île obscure au fin fond de on ne sait pas quelle mer. Enfin, voilà. Du coup, c'est un peu passé tout seul, comme une lettre à la poste. Mais, quand même, justement, c'est le dernier point que j'allais aborder, c'est une dénonciation du traitement des domestiques au XVIIIe siècle.
C'est que les domestiques ou c'est le peuple en général?
Alors là, Marivaux, lui se bat surtout pour les serviteurs, les domestiques et tout ça. Il a fait d'autres traités là-dessus, etc. Et donc, quand même, dans la pièce, il y a plusieurs fois des références, des sous-entendus ou des choses très explicites par rapport à des choses que faisaient les domestiques au XVIIIe siècle, concrètement. Donc là, il y avait quand même, on voyait que c'était une dénonciation de l'époque, quoi. Et donc là, c'est la fameuse question, est-ce que c'est l'île des esclaves? Il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est une utopie. Mais en fait, c'est pas une utopie. Parce que c'est plus un lieu d'expérimentation pour changer les mentalités, pour faire ce cours d'humanité que préconise Trivelin et sous-entendu Marivaux, qu'une réelle utopie, puisque une utopie, c'est un lieu où tout est parfait. Or là, c'est pas parfait, puisqu'au début, il tuait les maîtres. Enfin voilà, il y a quand même une dimension de recul. Enfin, il y a quand même un recul, quoi. Voilà. Donc c'est un lieu d'expérimentation et c'est pas vraiment une utopie, au sens propre du terme. Voilà. Donc en gros, l'île des esclaves de Marivaux en 1725. Un super bouquin très court, très intéressant à lire sans réserve.
Mais tu sais que ça me fait penser à une histoire vraie de, qui date des années 90.
Ça. Putain, franchement, j'étais sûre que tu allais me faire une référence réelle à un truc, parce que à chaque fois tu fais des liens.
C'est vrai, je sais pas. Non, mais ça, il y a au Mexique, vous avez un mouvement de guérilla qui s'appelle le mouvement zapatiste. Je sais plus où ils en sont actuellement, mais il y avait une rébellion début des années 90. Qui était dans le Yucatan, le sud très pauvre du Mexique, et il y avait un gouverneur local qui avait déclaré que les paysans mexicains vivaient très bien avec le revenu, enfin ils avaient un revenu qui était en dessous du seuil de pauvreté, mais le gouverneur avait dit non, ça, il y a pas de problème, on peut très bien vivre avec ce revenu là, et donc les zapatistes l'avaient kidnappé et l'avaient fait vivre comme des paysans mexicains. Il devait se lever à 5h le matin, il bouffait une galette de maïs et après il a travaillé au champ. Il a fait ça quelques mois et après il a été libéré. C'est un petit peu le procédé de l'idée. Ils ont peut-être lu Marivaux.
Ouais, carrément, ça. Peut-être. Mmh. Et du coup, il a changé ou pas après ?
Aucune idée.
Une idée ?
Je pense qu'il s'est vengé et qu'il a envoyé les flics et l'armée. Peut-être, je
oui.
sais pas. Je sais
Donc,
pas.
Puis, ouais, le coup du pardon, là, il n'y est pas encore. Quoi. Mais... Ouais, mais bon, on en connaît d'autres hein, qui s'affrètent d'y venir faire ça.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, bref. D'aller vivre avec le RSA. Ou,
voilà, ça, ou même le SMIC. Hein, avec
ouais,
le SMIC,
ouais, quoi. Ou de travailler dans les hôpitaux aux côtés des infirmières.
C'est ça. Ouais, ça en calmerait beaucoup.
Il y aurait peut-être moins de conneries qui seraient sorties sur les médias. Putain, on se croit au Roquet Rouge, là. Bon. Merci, Gaffard. C'est cool.
Écoute, on va écouter la chanson que tu nous avais préparée avant d'écouter la présentation.
Ouais, écoute, moi je vous ai proposé du Bob Dylan, Don't Think Twice, It's Alright.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby. Even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn. Look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on. But don't think twice, it's all right. And it ain't no use in a-turning on your light, babe. The light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. And calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby. So I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's all right. We'll be right back.
Donc c'était Bob Dylan.
Oui.
Tu nous dis le titre de la chanson, c'était quoi ?
Ne t'inquiète pas, ça, n'y repense pas, ça va aller. Don't think twice, it's alright. Histoire ouais. d'un gars qui largue sa nana. Mais ça va aller, t'inquiète pas. c'est bon. On reste amis.
Allez, on continue du coup. Et Monsieur Mitt, tu vas nous parler donc de...
D'un livre qui s'appelle « Des routes sauvages » de l'auteur Guillaume Guéraud, un auteur français qui a quoi, 46 ans, auteur jeunesse. Le livre est publié aux éditions du Rouergue en 2009 dans la collection « Dos à dos noir ». Et alors là, pour être noir, c'est très 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 noir. Comment je veux dire ? Alors déjà deux mots sur l'auteur. Guillaume Guéraud, c'est... auteur jeunesse, je l'ai dit, qui voulait d'abord faire journaliste et critique de cinéma. Et tous ses bouquins, on ressent beaucoup. Il a baigné très tôt dans le cinéma. Et son style d'écriture est très visuel. Et pour le coup, c'est très marquant, puisque là, on va parler d'un livre dont, quand vous ouvrez les premières pages, le livre est dédié à Tob Hope. Hope et Wes Craven. Donc Tob Hope, c'est le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, et Wes Craven, il a fait entre autres La colline à des yeux, surtout, c'est ouais. celui-là dont il se réfère. Je crois que c'est lui qui a fait Les Freddy aussi, non, Wes Craven, je crois.
Je suis pas sûr. En tout cas, il en a fait plusieurs. Ouais.
On est dans ce côté-là, quoi. On est dans le survival, voilà. D'accord. Vous savez, c'est un petit groupe de jeunes gens qui sont attaqués par une menace et on sait pas qui va survivre ni comment. Voilà, c'est l'esprit du survival. Et là, c'est vraiment un hommage au film du survival, Des routes sauvages. Donc le lecteur est averti. Bah écoutez, alors oui, je vais vous en lire un extrait. Donc c'est vraiment très 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 trash, mais c'est de l'ado. Donc enfin, okay. L'histoire, c'est par exemple une classe de quatrième qui donc avec des héros comme dans la littérature jeunesse qui sont des héros qui ressemblent aux lecteurs, qui sont dans des situations que les lecteurs peuvent vivre. Là, ils partent en voyage scolaire, ils partent de France pour aller faire un voyage en Espagne. Les ados ont des préoccupations d'ados, ils désobéissent aux profs, ils draguent entre eux, ils glandent.
Ils vont s'acheter des clopes.
Ouais, en cachette, ils écoutent de la musique sur leur iPad, etc. Voilà. Et le bus va passer par les Pyrénées et dans la vallée d'Aspe, une très jolie vallée que je vous conseille. Et au détour d'un virage, le bus va quitter la route et va s'écrouler dans un ravin.
Oh, l'angoisse.
Il va y avoir beaucoup de morts, vraiment beaucoup. Il y a parmi les profs et les élèves, il y a quelques survivants aussi, mais ils sont pas du tout au bout de leur peine. Ils vont bientôt se faire attaquer par des individus mystérieux. Alors, je vais vous...
Est-ce que c'est un mixte? Parce que ça me fait penser à...
Mais ça fait penser à plein de films, film, évidemment. Ouais. Oui,
Que j'avais vu un film qui m'avait fait triper.
Mais t'en as des milliers de films comme ça, là. Il parle aussi de Wolf Creek, par exemple, ou Détour, comment ça s'appelle?
Détour mortel.
Détour mortel, voilà, qui se passe en Australie, ça.
Oh, il est horrible, celui-là. Ouais.
C'est pas ça. Ouais, je sais plus. Semble, ouais. Non, c'est Wolf Creek qui se passe en Australie, et Détour mortel, je sais plus. Ouais, c'est ça.
Mais celui qui se passe en Australie, il est horrible.
Ah, c'est glauque. Ben voilà, on est dans le même registre, hein. Donc là, je vais vous lire un petit passage. Le bus vient de s'écrouler. Et donc je vous ai dit, c'est quelque chose de une écriture très visuelle, très cinématographique. Jugez-en vous-même. Alors si vous êtes par exemple assez sensible, zappez sur France Inter pendant 2 minutes, hein, et puis on vous reprend tout à l'heure, quoi. Le chauffeur avait la mâchoire inférieure arrachée, la tige d'un essuie-glace plantée dans une joue, le volant profondément enfoncé dans le thorax. Ses côtes et ses poumons avaient éclaté. Entre les montants du pare-brise émietté et un buste, les bras le long du tableau de bord, les jambes dehors prises dans les plis du capot. Le corps de Monsieur Coulonge était encastré dans la porte à souffler, le visage criblé de morceaux de verre, la colonne vertébrale sectionnée au niveau des lombaires. Dans une mare de sang, le gros Nico, le ventre empalé sur le levier de vitesse, les tonneaux lui avaient fait traverser tout le bus, du dernier au premier rang, enroulé-boulé par-dessus les sièges, lui débattant les os avant de lui perforer l'estomac. La plupart des passagers avaient été propulsés vers l'avant pendant la chute. La plupart des passagers avaient été écrasés, découpés, concassés par les mâchoires de la carrosserie. La plupart des passagers avaient été tués sur le coup. Le hêtre avait scindé le véhicule en deux, vomissant des corps dans la nuit. Là, un garçon aplati entre les racines et la ferraille. Un autre ramassé sur lui-même, la tête ouverte contre le tronc. Les doigts dans l'écorce. Et, comme en apesanteur, suspendu au-dessus des rebords coupants de la carcasse béante, une fille transpercée par des branches. La seconde moitié du bus était perpendiculaire à la première, dans un état comparable. Le bas de caisse avait sauté, le pare-choc arrière était imbriqué dans le toit. Et des corps, encore. Sous un amas de pièces détachées et de plaques de tôle disjointes, des membres inanimés dépassés des décombres. Quelques plaintes finirent par se faire entendre, des pleurs éparses, puis un cri. Une silhouette émergea de l'épave.
Wow.
Voilà.
En effet.
Le ton est donné.
Alors, et c'est tout le livre comme ça?
Ah oui, bah là, non, ça c'est que le début. Après, bah là, ça va crescendo. Vous savez, c'est comme dans le survival. Ça, au début, c'est gentil, tout ça. Et puis après, on a un premier choc un peu, qui secoue le lecteur. On croit que ça va se calmer un peu. Et plam, ça repart aussitôt. Et voilà, c'est pour essayer de traumatiser.
Ouais, et après, le personnage, il doit monter toute la falaise sans jambes, avec un couteau.
Il y a un peu de ça, ouais. Il y a des courses-poursuites avec des héros blessés. Voilà, ça finit dans une cabane au fond des bois. Je vous en dis pas plus. Donc c'est un livre court, hein. Moi je l'ai lu d'une traite, je disais il fait 137 pages, alors il est à la médiathèque de Rodez, et curieusement c'est littérature jeunesse, mais là il est rangé au rayon adulte,
comme c'est curieux.
Dans le rayon des policiers si vous le cherchez, Guillaume Garraud. Je vais vous raconter, alors c'est un livre, je vous raconte une anecdote dessus, dans une vie antérieure j'étais professeur documentaliste en collège, et c'est un de ces livres-là qui me permettait de récupérer, Cafard rigole, mais oui, non, mais c'est rigoureusement vrai. Ça m'a permis de ramener beaucoup d'élèves vers la lecture. Je leur racontais l'anecdote suivante, qui est une vraie anecdote. J'avais vu ce bouquin dans les catalogues, et l'histoire me plaisait. Je voyais un survival, tout ça, ça me plaît bien, ouais. Et je vais l'acheter à la maison du livre. Et quand la libraire voit le bouquin, elle me dit « Ah, attention, c'est pour des ados, alors faites très attention. L'auteur est à moitié fou. » Texto, elle me dit ça. Et il a essayé de rassembler dans ce livre les pires horreurs qu'on peut raconter dans un livre. Donc chargé de ça, moi je suis allé, j'allais en classe présenter ce livre, je racontais cette anecdote, on mettait un petit climat en disant bah écoutez j'ai pensé à vous, surtout j'allais voir les quatrièmes, je dis bah c'est une histoire de quatrième, j'ai pensé à vous, vous partez en Espagne tout à l'heure, j'ai pris ce livre là et donc ouais. Et la libraire m'a prévenu, alors je vous préviens vous aussi, je l'ai lu, faites très attention. Alors évidemment j'avais plein de gamins qui voulaient lire ce livre. Et là, je les mettais en condition.
Le goût de l'interdit.
Et
quoi.
Bien sûr, c'est ça, exactement ça. Je les mettais en condition, mais tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Si tu te sens mal, tu arrêtes. Les gamins, on avait l'impression qu'ils allaient faire du saut à l'élastique. Ouais, ils le prenaient. Enfin, ça, ils le dévoraient. Voilà. Et ensuite, j'avais d'autres livres de Guillaume Guéraud. Il y en a un qui est encore, si vous seriez à celui-là, il y en a un qui est encore plus trash, qui s'appelle Plus de morts que de vivants, qui est une histoire d'un virus qui, apparaît dans un collège de Marseille et qui est très trash aussi. Mais après, Guillaume Guéraud, il a fait pas mal de bouquins où il présente des anti-héros qui vivent dans des milieux sociaux défavorisés. C'est quand il fait pas du trash, il fait un peu du Zola. Mais c'est vraiment c'est très concret quoi. Et ça permet cette littérature-là de redonner, je trouve, un aspect sulfureux à la lecture. C'est des livres que je mettais pas en rayon, que je mettais derrière mon bureau. Donc c'est ce qu'on appelle en bibliothèque les enfers.
Wow, donc les livres interdits, trop vraiment cool.
Quoi de mieux pour inciter un jeune à faire quelque chose de lui interdire, voilà.
Donc
j'interdisais entre guillemets la lecture aux plus jeunes et aux plus sensibles, et je le donnais au quatrième, troisième. Donc c'est des livres qui circulaient énormément, ça, sur mes établissements. Donc là, il y a effectivement un côté transgressif. Hein. Ça change effectivement du côté propre et pédagogiste, presse hygiéniste de certains livres de littérature jeunesse. Là, on est loin du Club des Cinq. Hein. C'est un peu le Club des Cinq qui croiserait Massacre à la tronçonneuse, quand même. Et voilà, et ça donne le goût de lire. Voilà, c'est ça. La lecture, ça peut être sale, ça peut être violent.
C'est ça.
Voilà,
c'est transgressif. C'est souvent ça en plus. C'est souvent ça, les violents, quoi. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à protéger les enfants et à leur donner des trucs complètement aseptisés.
J'ai eu aucune plainte de parents, mais je pense que c'est parce que les parents ne lisent pas les livres de leurs enfants.
C'est ça. Et je pense que oui, peut-être qu'ils ont, ils n'ont pas vu ce que c'était.
Oui, ça aurait été un manga, c'est facile à feuilleter, à regarder, mais là, ouais. Non, c'est un petit roman, mais voilà. C'est aussi pour les grands et vraiment. Mais Guillaume Guéraud, de manière générale, je conseille. Je recommande.
Ah ouais, mais moi, ça me donne bien envie de lire, c'est clair. Tu vois, ça y est, je suis en mode, il faut que je le prenne. Ramène-le, je le prendrai.
Oui, médiathèque de Rodez, voilà. Il y en a d'autres de Guillaume Guéraud, voilà. C'était ma chronique. Je sais pas ce que je ferai la prochaine fois. Je sais pas si je peux monter au plus loin. Là, ça deviendrait indécent et peut-être CFM se ferait censurer. Si je reviens dans cette émission, ce sera avec grand plaisir. Je reviendrai. J'essaierai de trouver quelque chose d'original aussi, mais de plus soft. Voilà, ça...
Non, mais je crois que on en fera une spéciale quand même. Tu vois, avec parce que moi, ça me fait penser à un classique de la littérature, littérature érotique, qui est méga, méga trash, et qui s'appelle Les 11 000 verges d'Apollinaire.
D'Apollinaire, j'ai jamais lu, ouais.
C'est, en fait, plus tu montes dans les chapitres, plus c'est trash, quoi. Et donc, c'est un peu cette idée-là aussi, mais version érotique. Et j'en parlerai une autre fois, c'est costaud, quoi. En tout cas, super intéressant, ouais. En plus, moi, ça me fait penser, toute cette description-là que tu disais, que tu as lu, il y avait un petit côté poétique, j'ai trouvé quand même derrière, tu vois. Su une ou deux fois, j'ai entendu un petit truc poétique.
L'histoire du bus qui est un peu comme une mâchoire qui brise ses occupants, ouais, peut-être.
Non, il y avait une autre métaphore, ouais. Et ça me fait penser à ce que disait Baudelaire. Baudelaire, il disait que le beau est toujours bizarre. Mm-hmm. Et que la beauté est dans la bizarrerie. Mm-hmm. Et donc là, pour ce livre, ça colle grave. Merci, monsieur Mitt, pour ce.
Je vous en prie.
Cette espèce de petite pépite là qui a l'air superbe. Est-ce que tu as des actus littéraires à nous proposer pour ce mois de novembre 2018?
Un petit peu, ouais. On a parlé de la Maison du Livre. La Maison du Livre, justement, fête les 10 ans du Family. Vous savez, c'est l'annexe qui regroupe la bande dessinée, la littérature jeunesse et la science-fiction.
Ah, je suis en train de me prendre un coup de vieux là parce que
10 ans.
Le Family, moi, c'est la première fois où j'ai vu un film. Tu vois,
et j'ai pas
vu
connu, moi, je suis arrivé après. Ouais.
Le tout premier film que j'ai vu au cinéma quand j'étais petite, c'était La Belle et la Bête, et c'était au Family. Et là, ça fait déjà 10 ans que c'est plus un cinéma. Putain, je suis vieille. Vas-y, continue.
Moi, j'avais vu La Ruée vers l'or quand il était sorti au cinéma en 1925. Ouais. J'étais impressionné. Donc oui, donc les 10 ans du Family avec trois auteurs. Auteur jeunesse, Philippe Hugues, Patrick Joquel et Jeanne HB. Je connais pas les deux premiers, mais Jeanne HB, c'est une illustratrice de livres. Alors pour enfants, très très, très jeunes. Hein, c'est pour moins de 3 ans. Mais c'est un joli trait qui plaît beaucoup aux enfants. C'est des petites histoires du quotidien, de la vie d'un petit ou d'une petite. On va à la crèche, on va chez papy mamie, tout ça. Mais elle était venue il y a 2 ans au festival du livre jeunesse de Saint-Radegonde. Elle fait des superbes dédicaces. Elle prend le temps avec chaque lecteur de faire un petit dessin, de discuter avec eux, d'expliquer aussi son travail. Il y aura des ateliers d'ailleurs dans ce jour-là. Je sais pas si j'ai dit la date. C'est ce samedi là, le 10 novembre.
Le 10 novembre.
Ouais. Et le 17 novembre, toujours à la Maison du Livre, il y aura l'auteur Cécile Radjali qui viendra présenter son livre Bénédicte. On ne touche aucun royalties en parlant de la Maison du Livre.
C'est
bon, c'est la principale, sinon la seule librairie de Rodez. Faut la soutenir. Voilà.
Oui, et puis c'est quand même
des gens accueillants qui sont bien, qui savent nous conseiller, qui font bien leur boulot.
C'est quand même une très bonne
dynamique.
Librairie.
Ouais, ouais, ouais. Les villes, même des villes plus grandes que ça, n'ont pas une aussi jolie librairie que celle de Rodez. Hein.
Mais moi, l'autre jour, petit aparté, j'étais trop contente. Je suis arrivée à Maison du Livre et ils ont refait leur stock de plein de rayons. Là, merci le libraire qui est au rayon général. Bon, ensuite, la littérature est déjà très bien. Mais le truc général où il y avait sociaux, éco, religion, philo, enfin un peu tout, il y avait des parties qui manquaient, quoi. Et là, franchement, il a bien refait le stock. Il y a plein de trucs super intéressants. Bref. Moi, je vais finir sur une petite citation.
Ah, hein, une citation.
Pour terminer ces blablates que l'on a écoutées sur 107.9 CFM Rodez. Dans l'autre sens, c'est mieux aussi, CFM Rodez 107.9.
Ça marche aussi, ouais.
Mais bon, c'est comme... ça se dit dans les deux sens, c'est pas grave. Magnifique citation que Monsieur Mitt m'a soufflée hier. Que j'ai fait, waouh, elle est trop bien. Pour, voilà, on a parlé de choses assez trash aujourd'hui. Hein, l'esclavage, les accidents de voiture, les tortures, bon, un petit peu de comédie avec Carl Quint, mais bon. Du coup, on va finir avec une citation très intéressante, qui est « Un écrivain qui se livre, c'est comme un canard qui se confie. »
À méditer.
Exactement, à méditer.
Un dicton du Gers, je crois.
C'est ça, auteur anonyme.
Ouais.
On se retrouve très vite pour les blablates sur CFM Rodez 107.9. Merci, Monsieur Mitt, avoir présenté ce bouquin. On va continuer à faire des recherches pour Cancrela. On va finir par la retrouver. Je pense qu'en fait, elle est coincée sous la Comédie humaine de Balzac.
Moi, je voudrais la rencontrer. On pourrait faire un crossover, quoi.
Grave.
Une battle de littérature jeunesse avec Cancrela, quoi.
Ah ouais, ce serait trop drôle, quoi.
Si tu nous écoutes, Cancrela.
À très vite.
À bientôt, ciao.
Au revoir.
Salut Cafard.
Salut Cancrela.
Qu'est-ce que tu fais sur CFM?
Je blablate de vieux bouquins. Et toi?
Ah bah c'est rigolo, moi je blablate de livres jeunesse.
On n'a qu'à faire une émission ensemble.
Les blablates, c'est une fois
par mois.
Le mercredi à
19h.
Et le samedi à
13h.
Sur CFM
107.9.